Philippe Fruthier, bonjour.
Bonjour Jean.
Alors, comment on est lorsque l'on a devant soi le livre qui est composé des photos que l'on a prises et que ce livre vient juste de sortir de l'imprimerie?
Ben c'est le bébé, quoi. C'est le nouveau bébé qui vient d'arriver. Et c'est d'autant plus important pour moi que je suis sur un nouvel exercice. Ce bouquin, il rassemble des photos en fait, qui sont beaucoup moins figuratives et beaucoup moins documentaires que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc, on va dire qu'on est plus sur un registre, entre guillemets, je le mets entre guillemets, artistique. Et donc, bon, bah, quand on le voit arriver, c'est à la fois une grande joie et un soulagement aussi, parce qu'on a toujours peur quelquefois qu'il y ait une infidélité de l'impression par rapport à ce qu'on a voulu donner. Et bon, là, c'était bien, quoi. Voilà.
On va reparler du livre précédent, hein, mais justement, c'était intéressant cette question de la différence qu'il y a entre la photo qu'on a prise et que l'on voit peut-être sur écran. Je ne sais pas comment vous procédez, ou est-ce que vous faites des tirages papier, ou si c'est numérique, quoi. Mm-hmm. Et puis l'impression, et puis le fait que ça compose un livre.
Oui.
Alors c'est vraiment quelque chose de très, très distinct comme approche.
Ben oui, d'autant plus que l'approche de la composition des images, de l'assemblage des images, de l'association, c'est pas moi qui le fais, ça. Je suis vraiment trop proche de mon travail pour faire ce boulot-là. Donc ça, c'est l'éditeur, c'est les éditions de Georges, hein, qui sont à Arras, avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Et c'est en particulier une personne qui s'appelle Olivia Garbi, qui est directrice artistique, et qui fait donc ce travail d'association, mais aussi en collaboration avec moi, en accord avec moi, mais qui fait aussi ce travail de correction sur les chromies, etc., et tout ce qui peut concerner les corrections d'image. Voilà.
Alors les photos, vous les voyez au départ, je répète un peu ma question, est-ce que vous les voyez sur écran, sur papier, vous faites des tirages grand format
Non, c'est sur écran, et en fait il y a un choix de photos. Moi je soumets un choix de photos, encore une fois parce que je suis trop près de mon boulot, mais je soumets une présélection qui va représenter, allez on va dire 5 à 6 fois les besoins en photos pour le bouquin. Donc ça c'est vraiment assez colossal, donc il y a un gros travail de sélection, d'association. Donc après on fait des tirages sur planche contact. On fait des découpages, on fait des associations, on essaie de voir comment tout ça c'est un travail intéressant parce que c'est une redécouverte du travail. Mais au départ, la découverte de la photo, c'est sur écran. Hein. Et c'est là que j'apporte mes premières corrections, ou mes corrections, ou carrément mes délires de correction. Ça peut arriver aussi.
Alors, on a pu voir certaines de vos photos lors d'une exposition qui avait eu lieu à Cité Nature. Oui. Là, c'était des tirages en très grand format. Mmh. Là aussi, c'est très différent de l'exposition de photos en grand format et puis le livre des pages qu'on tourne. C'est, là aussi, il y a une grande différence.
Bah, c'est vrai que le livre, c'est un objet intime. Déjà la texture, le toucher, les photos d'expo, normalement on ne les touche pas. Ça, c'est une grande différence aussi. Voilà. Donc la texture du livre, ça c'est quelque chose d'important. On évoquait le moment où j'ai découvert le livre, ça c'est quelque chose d'important, de toucher. Effectivement, quand on a les photos sur écran, etc., bon, rien ne remplace l'objet livre et le toucher du papier, l'odeur même du livre qui vient d'être livré. On est dans des démarches complètement différentes. Effectivement, mais alors pour moi c'est toujours aussi une rencontre avec les gens qui regardent mon travail. Ça c'est que ça soit en exposition ou que ça soit sur un bouquin, comme là il va y avoir des séances de dédicaces, c'est une rencontre avec les gens qui regardent et qui apprécient normalement mon boulot puisqu'ils viennent voir l'expo ou qu'ils achètent un bouquin. Donc c'est plutôt agréable en général.
Alors un livre, ça peut se toucher, c'est ce qu'on va faire, on va tourner les pages. Mais auparavant, quand même, une petite question sur votre précédent livre, qui était d'ailleurs paru aussi aux éditions de Georges. Il s'appelait « Le Nord-Pas-de-Calais à tire d'aile ». Celui-ci s'appelle « Alchimie du Nord-Pas-de-Calais ». Alors ça avait été un grand succès d'édition, plus de 12 000 exemplaires.
Ouais, vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement, c'était inespéré. C'était mon premier livre. Il y en a eu quelques-uns depuis. Je crois que j'en suis à mon 7e, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ce premier livre, ça a été le plus gros succès d'édition, quoi, en fait, jusqu'à présent. J'espère que Alchimie va le dépasser, mais on verra. Et donc, c'était quelque chose d'attendu, en fait. Je pense qu'on est dans une région où les gens sont vraiment attachés à leur territoire, à leur terroir. Et de plus en plus, y a des gens comme moi ou d'autres qui essaient de mettre ça en valeur. Et on a une bonne réception des gens là-dessus. Donc 12 000 exemplaires, ouais, c'était complètement inespéré. Et puis ça a permis aussi d'atteindre une petite notoriété de quartier, quoi, qui est bien utile quand on fait ce boulot-là. Parce que bon, quand même, quoi qu'on en dise, je n'ai pas de complexe par rapport à ça, ce boulot-là, il est fait pour être vu. Si on le garde pour soi, moi j'ai commencé à exposer en 2006, c'était 10 ans après le début de mon travail. Et bon, il faut se faire un peu violence au départ, mais on se rend compte très vite que si on fait ça, c'est aussi pour être vu. Alors je ne connais pas beaucoup de photographes, j'en connais quelques-uns quand même, qui gardent leur boulot. Mais bien souvent, quand on a fait le pas, on a envie d'aller vers le public.
Alors il faut préciser que les éditions de Georges sont des éditions régionales, c'est de l'édition régionale, et le contenu de ces livres, hein, ces deux livres qu'on vient de citer, donc le nouveau Alchimie du Nord-Pas-de-Calais et le précédent, le Nord-Pas-de-Calais à tire d'aile, il n'y a pas de problème, ce sont des livres qui portent sur une certaine vision de la région.
Oui, tout à fait, on peut citer aussi d'ailleurs le Kent-Pas-de-Calais côte à côte, qui a été fait en 2009 pour le centenaire Blériot. Mais effectivement, on est toujours sur une connotation régionale. On a fait un bouquin aussi sur la Picardie à Tire-d'Aile, région voisine. Mais on est toujours effectivement sur un aspect régional des choses. Chez De Georges, on peut citer aussi un très très beau livre qui est le Terroir du Nord-Pas-de-Calais, du champ à l'assiette, ça s'appelle. C'est un bon programme. Voilà. Donc des paysages jusqu'à l'assiette. Voilà. Et on est en train actuellement de faire un autre projet qui va sortir en décembre, qui sera un bouquin sur l'agriculture de notre région. Voilà. Donc on est toujours sur cette connotation. Et puis sur les autres sujets, là on parle de mon travail, mais ça mérite d'être souligné, les éditions de Georges, et en particulier un monsieur qui s'appelle Denis Cordonnier. C'est un monsieur qui est un passionné de sa région, et je veux dire qui est passionné des passionnés aussi. C'est-à-dire que dès qu'il voit des gens devant lui qui ont une passion pour un sujet, et en particulier un sujet régional, il fonce, quoi. Et c'est vrai que je pense que si je n'avais pas fait cette rencontre avec Denis, j'en serais pas là aujourd'hui, on n'en serait pas à présenter ce livre aujourd'hui, quoi, c'est sûr.
Alors dans les deux cas, pour ces deux livres, et en particulier pour le nouveau, l'Alchimie du Nord-Pas-de-Calais, c'est de la photo, et c'est de la photo vue du ciel.
Oui. Alors ça, pour le coup, on ne l'a peut-être pas précisé. C'est vrai qu'il fallait le préciser peut-être du départ, mais c'est ma marque de fabrique. Moi, c'est ma spécialité. Je suis le photographe qui s'envoie en l'air. Et donc, c'est de la photographie aérienne. Et bon, je ne vais pas dire que je ne sais faire que ça, mais maintenant, je pense que j'ai fait ma petite notoriété sur cette activité de la photographie aérienne, qui est effectivement un petit créneau. On est très peu à faire ça au nord de Paris. Je pense que je suis le seul à éditer des bouquins comme ça de photographie aérienne sur la région.
Voilà. Alors c'est de la photographie aérienne, mais à une altitude raisonnable, on va dire. C'est un petit avion.
Oui, tout à fait. Je travaille avec un petit avion qui est classé ULM, d'ailleurs, ultra léger motorisé. Donc bon, ça, c'est un classement, administratif, de l'aéronef. Mais bon, c'est un appareil très bien adapté pour la photographie aérienne, qui peut voler assez lentement. Bon, au niveau des altitudes de vol, on est soumis à la même réglementation que n'importe quel aéronef, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Mais c'est très maniable. Enfin bon, c'est le prolongement de mon appareil photo, quoi, en fait. C'est un pied géant pour mon appareil photo. Voilà.
D'accord. Et on va feuilleter ce nouvel objet. Alors avant de le feuilleter, on regarde la couverture. Ouais. Donc le titre, Alchimie du Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, alchimie est mis en évidence. Ouais. Est-ce que ça fait référence à une démarche cette fois-ci plus, comme vous l'avez dit, plus artistique, plus de composition que géographique?
Ben effectivement, bon, il y a le territoire Nord-Pas-de-Calais qui suit tout de suite après, mais l'alchimie, c'est important, et je pense que c'est surtout c'est important aussi dans notre région. Moi, quand je survole la région, on est dans une région alchimique, on est dans une région qui se transforme sans arrêt, et l'alchimie, c'est la transformation improbable des matières, quoi, en fait, en autre chose que ce qu'on peut attendre. Ben, c'est ce qu'on va trouver un peu dans ce bouquin-là, c'est des points de vue, des lumières, des cadrages sur des détails qui font que on n'a pas du tout, on s'attend pas du tout à voir, une rivière ou un paysage de cette façon-là. Et puis bon, on est vraiment dans une approche plus artistique, effectivement. C'est pas facile de parler de photos à la radio, mais oui, tout à fait. C'est véritablement, vous savez, pour moi, la signification de l'art. Alors, on ne va pas se lancer dans des grandes définitions, mais il y a quelque chose de très important pour moi, c'est de dépouiller l'objet qu'on veut représenter de son utilité. On a souvent tendance à regarder les choses en interprétant l'utilité, à quoi ça peut servir, l'objet. Et souvent, quand on décode quelque chose, on le décode comme ça. Je pense que de pouvoir montrer quelque chose en le dépouillant de ça et en le montrant pour ce qu'il est, pour ses formes, ses couleurs, ses lumières qu'il renvoie, c'est peut-être ça, en fait. En tout cas, c'est ma définition de ce que j'essaie de faire et ce que j'essaie de faire par ce bouquin.
Alors justement, si on regarde la photo qui est sur la couverture, en tout cas celle du bas, là on a un paysage, bon, on voit que c'est un paysage, on ne l'identifie pas comme étant un paysage du Nord-Pas-de-Calais. On voit beaucoup d'eau bleue, on voit des îlots avec des plages de sable, des arbres verts, du rouge. On se dit, tiens, c'est où ? Alors bon, on pense peut-être à la Marquenterre, je ne sais pas où on est.
Bon, c'est bien. Mission réussie, alors. Parce qu'effectivement, on peut s'amuser avec ce bouquin à jouer, à essayer de deviner ce que c'est, où on se trouve, ce que ça représente, déjà. C'est pas toujours évident. Là, en l'occurrence, on est dans la vallée d'une petite rivière extraordinaire de notre région qui s'appelle la Course, qui est dans les Sept-Vallées. Et donc, on est à Anquin-sur-Bayon, donc en plein cœur de cette vallée. Et bon, là, pour le coup, je le revendique, d'ailleurs. J'ai retravaillé un peu sur les couleurs parce que je me dis qu'un peintre, on lui donne ce droit. Pourquoi le photographe n'aurait-il pas ce droit également, hein? Donc, on me pose souvent cette question de savoir si les images sont retouchées, etc. Et moi, je revendique ce droit à la singularité sur certaines images. Le tout, c'est de faire plaisir, de surprendre, mais surtout de faire plaisir aux gens qui regardent cette image, quoi. Voilà.
Alors évidemment, le jeu a une limite, c'est qu'on sait déjà que c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est vrai que si on cache le titre, on se dit que ça peut être un paysage du bush australien en pleine saison humide. Hein, on peut voir ça, on peut voir certainement d'autres choses aussi. Alors, on ouvre le livre, je l'ouvre au hasard. Bon, alors là, c'est une page avec un titre, donc on tourne un petit peu. Alors, on va regarder peut-être à droite. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un paysage, évidemment, mais qui atteint un certain niveau d'abstraction. Par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est l'objet retiré de son duquel on retire son utilité, mais ça peut être aussi une réalité de laquelle on tire quelque chose de plus abstrait, peut-être plus symbolique, je sais pas. Ça pourrait être un tableau d'abstraction lyrique, je sais pas.
Alors, c'est un très bon exemple, cette photo. On ne va pas la décrire, mais moi, il y a des objets j'observe tout le temps et sur lesquels je passe régulièrement et je repasse. Les gens qui me connaissent bien le savent. Alors, quand on parle de l'objet, de son utilité, ça enlève la poésie, évidemment. Ce sont des bassins de décantation. Ouais, donc, mais il y a un truc qui est extraordinaire vu du ciel, c'est l'eau. On a parlé tout à l'heure de l'exposition L'eau de là-haut qui était à Cité Nature. Bon, moi, je m'amuse énormément avec ça. L'eau, elle peut avoir 36 aspects. En étant là, en laissant sa trace, en faisant un miroir sur le ciel, en ayant érodé une certaine, par son passage, etc. Ou en stagnant, enfin bon, par ce qu'elle contient aussi. Et donc, on a toujours des belles surprises. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup mieux d'enlever complètement l'utilité de l'objet, quoi. Et de rester dans la sensibilité, dans la surprise de ce qu'on découvre.
Ouais, donc on est à la page 9. Si on regarde la page de gauche, bon là, on identifie assez facilement ces falaises du Cap Griné, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y avait une chance sur deux, mais ouais. C'est bien.
Alors, bon, à ce propos-là, il y a une question qui peut apparaître, c'est le fait que les photos sont prises du ciel, d'une certaine altitude, là, quand même, semble-t-il, assez haut. Du coup, ça change les règles de la perspective de la photo, parce que une photo prise à hauteur d'homme, logiquement, quand on regarde la photo, on sait où est placé le photographe. On voit le point de fuite. Le point de fuite indique la position, la hauteur du... Là, vu du ciel, les règles de la perspective, elles se modifient. Ce qui fait qu'ici, on voit évidemment à peu près où est placé l'avion et le photographe. Mais du coup, ça donne une sensation un peu... Ah, c'est difficile à expliquer, mais du coup, on a...
on perd ses repères.
On perd ses repères.
Ouais, on perd ses repères. Alors, bon, là, pour le coup, il y a un point de repère qui est ce sentier avec des randonneurs hein, qu'on voit ici sur l'image. Mais, ouais, effectivement, c'est bien souvent, d'ailleurs, on pourrait... c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, ça. Faire un rapprochement de photographie aérienne, comme ça, donc de sites larges. Avec, j'ai des confrères qui font de la macrophotographie, donc extrêmement dans le petit, et on peut souvent faire des rapprochements entre les deux. Et on est complètement désarçonné quand on voit qu'on se place d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Ouais, on manque de repères, en particulier quand on n'a pas l'habitude de se balader dans la troisième dimension. C'est pas évident de retrouver ses repères, mais c'est bien aussi, ça emmène les gens ailleurs.
Ouais. Alors, bon, de toute manière, la photo vue du ciel, bon, ça fait un peu référence à la peinture. Hein. La peinture de la Renaissance, c'est l'introduction des règles de la perspective avec le point de fuite, qui est une peinture qui se différencie, par exemple, des peintures où... bon, ça fait référence un peu au livre rouge. Je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez, écrit par un Turc. Je n'ai plus son nom en tête. Où là, les peintres turcs font par exemple, des chevaux, mais en considérant que c'est vu du ciel. Et donc, il n'y a pas d'ombre. C'est vu de tellement haut qu'il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de point de fuite. C'est vu de très haut. Plus l'origine de la, du
point de vue,
du point de vue, voilà, est éloigné, plus d'une certaine manière, il disparaît le point de fuite.
Oui, bien sûr.
Et là, il y a un petit quelque chose comme ça, là.
Ben oui, alors ça, c'est vrai que ça peut jouer des tours, d'ailleurs, hein, parce que moi, bien souvent, alors plus on est haut et plus c'est vrai, oui, tout à fait, on a toujours l'impression que tout est prêt. C'est vrai que si on monte assez haut ici, dans la région d'Arras, qu'on a une bonne visibilité, on a l'impression que l'île est à côté. Moi, ça m'est arrivé de voler sur Douai et de voir la côte se dessiner. Hein, bon, faut avoir une atmosphère très claire, ce qui est rare. Mais ça peut arriver. Et dans ces conditions-là, on a toujours... bon, les gens qui ont voyagé en avion voient de quoi je parlais. On a quelquefois une perspective sur 100 km. On a l'impression que c'est là, qu'on peut le toucher. Hein. Et moi, ça m'a joué des tours parce que on se dit on va y revenir pour faire une petite randonnée. Ça va durer 2 heures. Et en fait, ça dure la journée, quoi. Donc, il faut se méfier de ça, hein.
Alors en tout cas, cette photo, elle est habitée, c'est-à-dire il y a des, au sens où il y a des personnes humaines, c'est pas simplement de la faune, de la flore, il y a des humains. Est-ce que bon, on va tourner le bouquin pour voir justement si c'est cette notion d'habitat et de peuplement. Et bon, là, c'est une photo industrielle. Là.
Ouais. Bah oui, oui. Ce bouquin, il touche à beaucoup de sujets. En fait, j'ai revisité à la fois les paysages, mais aussi les outils de production de notre région, parce que bon, on est dans une région de production industrielle. Et là, c'est par exemple une photo qui a été faite à Stora Corbuen, donc cette année. Mais voilà, oui. Donc on a souvent des choses très graphiques avec l'industrie. Je pense aussi aux infrastructures routières, aux infrastructures chemin de fer, etc. C'est bien souvent un sujet intéressant pour le photographe.
On continue à tourner. Là. Alors là, c'est intéressant. Il y a deux photos à la fois. Il y a une photo avec des parapluies, toujours vue du ciel. Enfin, bon, je vais vous demander de préciser. Puis à droite, c'est une éolienne et on voit l'intérieur de la tête de l'éolienne tout en haut, quoi, avec des gens dedans, hein.
Ben oui. Alors bon, toutes ces photos, j'en profite pour le dire, l'essentiel de ces photos qui sont dans ce bouquin, c'est pas des commandes. C'est-à-dire que je passe par hasard et je vois quelque chose qui m'intéresse et je le photographie. Je me dis pas, je vais aller là pour photographier l'éolienne avec les gens qui sont dedans. C'est des gens qui sont en train de faire l'entretien de l'éolienne, donc ils se trouvent au cœur du système de production d'électricité de la turbine. Et donc effectivement, il y a de l'humain, mais c'est le hasard d'une rencontre. Quant au parapluie, alors là, bon, c'est peut-être une des rares où j'étais là exprès. Voilà. Et c'est une des rares aussi qui a été faite non pas avec l'ULM, mais avec un drone, puisque maintenant j'utilise aussi un petit appareil radiocommandé qui permet de faire travailler à très basse altitude.
Il n'y a pas que les militaires qui utilisent les drones, alors.
Ouais, mais le mien, c'est un drone pacifique. C'est un matériel qui est fait pour faire des belles images, c'est tout. Qui n'est pas fait pour de l'intrusion chez les gens, qui n'est pas fait pour balancer des missiles ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on l'appelle drone, mais c'est un peu un abus de langage, parce qu'un drone, il peut échapper des yeux. Là, je l'ai toujours à vue quand je travaille avec ça. Et donc ça permet des points de vue très particuliers comme ici où on a ces parapluies. Alors pour la petite histoire, c'est l'association des pépins, pins, à Boiry-Becquerel. Voilà, et donc c'est très joli, quoi. Comme son nom l'indique, ce sont des pépins, des parapluies qui sont peints et qui forment une figure. Et là, il y a de l'humain, mais ils sont cachés sous les parapluies.
Allez, on tourne encore quelques pages. Ouais. Alors là, c'est un ciel. Ouais. Là, il y a le sol qu'on voit apparaître aussi dans la brume. Voilà. Et à droite, là, on est dans l'industrie. Je ne sais pas, c'est la centrale nucléaire de Gravelines.
Non, la centrale nucléaire de Gravelines, on ne peut pas la survoler, donc c'est interdit. Non, on est sur une centrale électrique, mais une centrale électrique au charbon qui se trouve à Bouchain. Donc c'est un réfrigérant, une colonne réfrigérante, donc qui donne un aspect très graphique comme ça. Voilà. Mais déjà, c'est bien de le voir, quoi, parce que ce n'est pas évident d'interpréter une photo comme ça, quoi.
Je vous laisse tourner les pages pour voir s'il y a quelque chose que vous voudriez, par exemple, nous montrer.
L'humain.
Nous montrer en radio.
Ouais. Celle-ci, elle est assez, assez surprenante. Et en général, elle étonne les gens. C'est une épave qui se trouve en baie d'Huissant, que peu de gens connaissent, et qui est vraiment mystérieuse. On a l'impression du bateau fantôme qui est venu se poser sur la plage, là. Bon, pour la petite histoire, c'est un endroit où on peut aussi aller cueillir des moules. Mais bon, la photo montre véritablement... Et puis c'est désert, en plus. Là, on a pris le parti, parce que j'ai d'autres photos où il y a un tas d'activités humaines autour. On a pris le parti de le laisser comme ça, sans aucune présence humaine autour. Et on a vraiment cette impression de vaisseau fantôme, quoi. Voilà. Donc toujours l'eau, hein, des marécages. Ici, on se trouve dans la région de Rheims, au nord de Valenciennes. Bon, ben voilà, ça, c'est vraiment une rencontre. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de parler de photos comme ça.
Est-ce que vous avez des photos, par exemple, est-ce que vous avez, parce que là, il se trouve qu'on est tombé soit sur des sites industriels. Est-ce que vous avez des photos, par exemple, de villes où, je suppose qu'il y a, il y a le bassin minier, les terrils, ça, on doit. Voilà, hein, tiens, un beffroi.
Un beffroi, le beffroi d'Arras. Voilà. Bon, donc là, le parti pris de cette photo, c'est aussi une photo qui est surprenante parce qu'on est complètement plongé avec le lion qui apparaît comme ça en premier plan. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ici, c'est une photo qui a été faite à plus de 500 mètres d'altitude. Donc on écrase aussi les volumes, ce qui donne cet effet. On a l'impression que les gens qui se baladent ici sur le trottoir sont véritablement à côté du lion, et on a les mêmes on a cette impression écrasée. Donc là aussi la photographie aérienne peut donner une interprétation quelquefois difficile, quoi.
En tout cas, je confirme, on ne sent pas les 500 mètres d'altitude. Hein.
Absolument. Là, on est à Lille, donc c'est un peu pareil. Hein. On est aussi à une altitude de l'ordre de 500 à 600 mètres. C'est le bâtiment de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Donc on a, là, l'objet, c'est de montrer vraiment des perspectives très particulières à celle-là. Celle-là, j'aimerais bien que vous essayiez de...
Alors. Ah, c'est déjà compliqué à la décrire. Bon, c'est multicolore. On voit des reliefs. On n'arrive pas à savoir si ce sont des hauts reliefs ou des... on a l'impression que c'est parsemé de petites pastilles. Multicolores, des bonbons, là, comment ça s'appelle, ouais. Ces bonbons. C'est curieux.
Si je vous donne une clé, vous allez pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin dans l'interprétation de la photo. Je vous dis assiette.
Assiette. Ouais. Ah, ça m'aide pas.
Non. Ben, les petites pastilles, en fait, ce sont des assiettes. Ce sont des assiettes. On est ici sur le site de la cristallerie d'Arc.
D'accord.
Voilà. Et en fait, c'est l'endroit où les rebuts, quoi, donc de la cristallerie. Donc ça se transforme un peu en joyaux quand on regarde une photo comme ça. Et ces aspects multicolores de toute cette vaisselle qui peut qui donne un aspect complètement particulier. On a vraiment l'impression d'avoir ouvert la caverne d'Ali Baba, quoi.
Voilà. Et là, c'est vraiment la photo qui devient une peinture. Hein.
Oui. Alors, effectivement, bon, et c'est vraiment. Alors, c'est toujours comme ça. Ce sont des détails dans le paysage, quoi. C'est vraiment des choses. Quand on est en l'air, on a une vision globale des choses. Et. Le tout, c'est d'aller vers un détail. Ici, on ouvre une page, sur des cabines de plage en hiver à Calais. Et donc, en hiver, avec des ombres portées qui sont dans le bon sens par rapport aux cabines, avec ces tas de sable qui sont devant, où on ramène le sable effectivement sur la plage qui a pu partir et qui fait une opposition complète par rapport aux ombres portées comme ça. C'est vraiment le petit détail, quand on est en l'air, c'est vraiment le petit détail qu'il faut aller chercher, quoi. Et bon, ça, j'essaie toujours d'avoir un œil ouvert. Je regarde beaucoup plus ce genre de petits détails que l'extérieur de mon avion.
Bon, on ne va pas feuilleter entièrement le livre, hein, vous allez le découvrir. Alors justement, on peut venir à la rencontre de ce livre qui est sorti de l'imprimeur, mais il va bientôt être disponible dans les librairies, toutes les librairies de la région.
Les bonnes, comme on dit.
Et puis il y a, voilà. Alors il y a des séances où les gens pourront venir à la fois à la rencontre du livre et puis de son auteur.
Ouais,
et on va donner les différents renseignements.
Ouais. Alors il y a deux salons du livre déjà. Il y a un salon, le salon du livre du Touquet qui va se dérouler le 23 et le 24 novembre au Touquet, où je serai pour signer et pour rencontrer le public, surtout pour échanger. Le Salon du Livre de Loos, les Lilles. Autre rendez-vous important ici sur Arras, c'est le 7 décembre à la librairie Chapitre. Et puis après on a une grosse collaboration aussi avec les Furets, donc le Furet d'Arras le 14 décembre, le 15 décembre à Lille, au Furet de Lille, et le 22 décembre au Furet de Lens. Voilà.
Pour terminer, une dernière question sur le... Est-ce que le fait de pratiquer notre région d'un point de vue tout à fait particulier, qui est, bon, quand on est comme ça en altitude, est-ce qu'on change de point de vue sur l'image qu'on a de cette région ? Et est-ce que ça modifie aussi, chez les gens qui ont consulté vos livres, est-ce que ça change chez eux leur vision de la région ?
Bah, disons que, alors, c'est bien et ça peut aussi être trompeur, mais de là-haut, tout est beau. C'est vraiment quelque chose qui est frappant, ça. Bon, moi, pour le coup, ça a complètement changé ma vie, puisque bon, je me suis reconverti à l'âge de 38 ans, quand même, dans cette activité-là. Mais de découvrir la région comme ça, son patrimoine, la richesse de son patrimoine, la diversité de ses paysages, avec des choses très identifiantes, hein, entre le Boulonnais, la Vénois, les plaines de l'Artois, le Marais de Marois, etc. On se rend compte qu'on a une diversité incroyable dans la région et on ne peut que l'aimer, quoi. Parlons pas du bassin minier, enfin, ou plutôt parlons-en, mais le bassin minier, alors là, pour le coup, on parlait d'alchimie, c'est une alchimie incroyable, le bassin minier. Déjà, l'origine du bassin minier, il faut bien se dire qu'on avait des plaines agricoles partout. Et l'industrie s'est imposée en un siècle et demi, ce qui n'est rien, quoi, en fait. En l'espace d'un siècle et demi, on a eu irruption de terris, de chevalements, de cités minières, etc. C'est un truc incroyable, quoi. Il n'y a pas beaucoup de régions où il y a eu ce genre de bouleversement. Ça, il a fallu une population qui s'adapte aussi à ça, qui soit dans la dynamique de cette alchimie, justement. Et puis, l'alchimie qui consiste aussi aujourd'hui, maintenant, ça se passe maintenant, et de façon très rapide, à reprendre possession différemment de ces lieux. Les terris aujourd'hui sont verts, ce sont des lieux de culture, ce sont des lieux d'entreprise, ce sont des lieux de promenade où la nature reprend ses droits, etc. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une région passionnante et moi je me suis complètement passionné. Pourtant bon, j'avais rien à voir avec le bassin minier à l'origine. Mais je me suis complètement passionné pour ça. Et mes photos ont servi aussi à l'élaboration du dossier UNESCO pour le bassin minier, etc. Donc voilà. Puis bon, je pense qu'on n'est pas nombreux à connaître la région comme ça. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un hectare que je n'ai pas survolé, quoi, dans la région.
Voilà. En tout cas, vous avez, puisqu'on parlait du bassin minier, là, vous en parliez précisément, il y a un autre livre qui s'appelle « Le bassin minier entre ciel et terre, patrimoine du Nord-Pas-de-Calais », et le texte est de Marie Tranchant, et vous signez les photographies. Et là, c'est édition Ouest-France.
Oui, tout à fait. Là, on est dans un registre un peu complètement différent, même, rien à voir. Donc, effectivement, avec une maison d'édition plus grosse et de renommée nationale, ils sont venus vers moi pour illustrer ce bouquin. Donc là, on est dans un parcours du bassin minier d'est en ouest, où on redécouvre tous les sites miniers, ce qu'ils sont devenus. On fait des parallèles avec des photos anciennes et des sites qui sont devenus aujourd'hui. On a aussi des photos qui sont là purement pour l'esthétique. Mais ça, bon, effectivement, j'ai revendiqué cette possibilité-là. Et puis, en peu de texte, finalement, on apprend, mais plein de choses sur le bassin minier. On l'a fait aussi en collaboration, une collaboration très, très importante. Donc, c'est Marie Tranchant qui a écrit les textes, mais en collaboration avec la mission bassin minier. Donc, et en particulier avec Marie Patou qui nous a vraiment bien aidé là-dessus, et Naïma qui nous a aidé aussi qui connaît toutes les cités minières par cœur. Enfin bon, voilà. Donc des gens qui sont des passionnés. C'est l'intérêt aussi de ce métier, c'est qu'on rencontre plein de gens passionnés quand on fait un projet comme ça.
En tout cas, merci Philippe Frutier. Et puis, je pense que le prochain reportage, c'est un peu un défi, ça sera tous les deux sur l'ULM. Et alors, il faut, ouais, faut qu'on trouve les conditions techniques pour pouvoir avoir le micro dans l'appareil.
Ouais. Mais j'ai un petit doute là-dessus. Je me demande s'il y avait vraiment un problème technique ou si vous aviez vraiment envie de venir voler. Et si c'est pas une,
j'en ai envie, mais en même temps, j'en ai peur. Ouais, ah bah, l'appréhension, elle est, l'appréhension, elle est évidente. Hein. Mais bon, il y a un problème technique à, okay, à résoudre. Mais d'accord, j'ai envie de le faire. On va le faire.
En tout cas, vous êtes bienvenue. Vous êtes bienvenue. Et puis, mais faites attention parce que quand on met le doigt là-dedans, il y a... Ça peut avoir des suites graves.
En tout cas, la radio vue du ciel, on va voir ce que ça donne. Voilà. Prochain défi.
Ok, ça marche. À bientôt.